À l'édition du poème, c'est la 9e phase de ces états généraux aujourd'hui, et je vais laisser la parole à Rodolphe Pérez, qui sera le températeur de cette rencontre et qui va vous présenter tous ses invités.
Merci beaucoup Vincent. Merci à tous et à toutes d'être là à l'heure de la sieste, un samedi. Moi, je vais vous présenter les invités de cette table ronde. J'avais envie qu'on aborde avant toute chose leur position de lecteur et de lectrice, parce que je crois qu'on n'a pas tellement parlé dans ces états généraux de l'édition de la position du lecteur et de la lectrice. Et donc on va discuter pendant une heure et demie, une heure et quart, avec Éric Blanco de l'édition Pleine Page, qui est à l'extrême gauche, Ariane Le Fauconnier, qui est à la fois attachée presse des éditions Bruno Doucet et à la fois éditrice de 10 pages au carré, Daniel Mescache, qui est éditeur chez Tarabuste, Élise Bétremieux, qui est éditrice aux éditions d'avant-dernier, et Dominique Acovella, qui vient de nous rejoindre, qui est éditrice à La Rumeur Libre. Et donc peut-être... Je me suis trompé ? Non, je ne me suis pas trompé. Donc peut-être que pour commencer cet échange, vous pourriez nous parler de votre propre position de lecteur et lectrice qui vous a fait éditeur et éditrice. On en parlait tout à l'heure avec Daniel, qui m'a rappelé en fait de manière très, très simple et évidente qu'il a été éditeur parce qu'il a été lecteur. Et donc, dans cette histoire qui est le rôle d'éditeur, quelles sont vos positions de lecteur et lectrice avant toute chose? Et ensuite, on parlera de votre rapport à vos lecteurs et à vos lectrices dans le travail d'édition. Mais d'abord, quel lecteur et lectrice êtes-vous dans le travail éditorial et avant d'avoir été éditeur et éditrice, peut-être?
Eh bien, pour ma position d'éditeur, je pense que je suis plus auditeur que lecteur. Je suis un éditeur-auditeur ou un auditeur-éditeur, et que je cherche, ou en tout cas je cherche des poètes ou des poétesses et des textes qui sont à entendre, et je fais mes choix à l'oreille plutôt qu'à l'œil, voilà.
Mais ça donne des objets livres.
Pour faire des objets livres, bien entendu. Après, on passe du son à la matière, bien sûr.
Ça, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est très juste. Peut-être que on peut poursuivre cette lancée-là. Ah, Ariane, si tu veux... On n'est pas obligé de faire dans l'ordre de classe, hein. Vous pouvez vous rebondir les uns sur les autres. Hein.
C'est difficile comme question, la question de quel lecteur ou lectrice on est. Évidemment, je pense qu'on... c'est la première partie avant de devenir éditeur ou éditrice. Pour ma part, je dirais que peut-être la différence entre ma position de lectrice et ma position d'éditrice, c'est que je suis lectrice d'à peu près tout, alors que je suis éditrice uniquement de poésie. Et en fait, ça fait une grosse différence, parce que le fait de lire de tous les genres et de se nourrir de tout ce qui peut être publié, ça va de l'essai au polar, à l'imaginaire, à la bande dessinée. Je pense que ça a quand même un impact sur ma façon d'éditer les livres.
Sans vouloir faire de jeu de mots, je crois que je suis l'éditeur du lecteur que j'aimerais être. Ou alors l'éditeur du lecteur que je n'ai pas pu être, sans jamais penser au lecteur auquel je m'adresse. J'ai dit d'abord pour moi, c'est égoïste, c'est vrai, et me rejoignent ceux qui aiment ce que je fais, donc ceux qui me ressemblent le plus. C'est peut-être en cela que certains qui sont ici d'ailleurs disent que Tarabuste c'est une petite famille. Voilà. Je pourrais pas dire plus.
Moi, en tant que lectrice, je dirais... Enfin, en tant que lectrice-éditrice, je dirais comme je suis éditrice artisane et que je suis toujours en train de bricoler, de conceptualiser. En fait, dès la première lecture, je suis déjà en train de construire le livre. À chaque fois. Et c'est un côté un peu obsessionnel. C'est-à-dire, je suis toujours en train de me demander quel livre je vais faire. Et quand je découvre un texte, c'est ça, en fait. Je me demande quel livre je ferai avec. Voilà. Alors, parfois, par chance, il n'est pas encore fait et on peut le faire. Et parfois pas. Et alors, quand il n'est pas encore fait et qu'on peut le faire, dans ce cas-là, moi, je considère que mon travail d'éditrice, c'est justement d'offrir une interprétation du texte. C'est-à-dire, ce que j'offre à travers cette édition, c'est une lecture.
Je vais essayer de suivre.
Tout va bien.
La Rumeur Libre, donc. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on le fait à deux. et on n'a pas forcément le même point de départ. Il se trouve qu'on a décidé d'avoir le même point d'arrivée, qui est la rumeur libre, et qui est donc de chercher des textes d'écriture de création. On est dans le creative writing, des textes contemporains, essayant de publier la variété de ces écritures de création, modestement, parce qu'on ne fera pas le tour, forcément. Et il y a là nécessité d'avoir un œil qui repère, hein, vraiment, ce genre de choses. Personnellement, je ne suis pas sûre d'avoir été une grande spécialiste de poésie avant d'avoir été éditrice, si tant est que j'en sois devenue une. Et en fait, ce que je cherche, c'est un chemin qui n'a pas été exploré et qui ne passe pas par les histoires de petites fleurs. Voilà, j'ai rien contre les petites fleurs, mais on va le dire aussi brutalement, enfin, abruptement, pas brutalement. Voilà, c'est pas. Ça n'est dévalorisant pour personne. Et j'essaie que ce ne soit pas dévalorisant pour moi en le disant. Mais voilà, ce sera. Et donc, je suis d'une origine littéraire, mais je suis passée par la géographie. J'ai été prof de géo, puis après, voilà. Et je suis venue, j'ai accepté la poésie parce que je me suis dit que même si j'avais plutôt envie de travailler dans l'enfance, là, on avait une langue, il y avait une langue, il y avait quelque chose. Il y avait une présence. Qui peut être importante pour les gens qui ont écrit, qui nous rencontrent, qu'on va donner à lire, et pour ceux à qui on va le donner à lire. C'est cette idée-là, donner à ceux qui vont lire une idée de la réalité de création d'une période, de liberté d'une période, qui est la nôtre, qui est, etc., etc. Voilà.
Merci beaucoup. Je crois que ce qu'on entend aussi quand même beaucoup, c'est que dans ce que vous avez dit toutes les cinq, c'est qu'il y a une dimension empirique. Finalement, le lecteur n'arrive jamais puisqu'il est en cours de travail. Élise, tu as dit que en fait, tu avais déjà le livre dans ta tête qui se fabriquait quand tu étais face au texte. Donc c'est ta position. Tu pars d'un objet qui est déjà en train de se fabriquer au moment où tu lis. Eric, on n'a pas dit que tu travaillais à deux, mais tu travailles à deux avec Claudie chez Pleine Page. Donc il y a ce matériau sonore qui ensuite devient un matériau de livre, qui est un matériau parfois plastique. Chez Tarabuste aussi, on l'a vu. Aux éditions Blondoucet, Ariane, tu vas nous en parler tout à l'heure, il y a aussi tout un travail d'accessibilité du livre sur des supports pluriels et variés. Donc, on peut peut-être clôturer cette première question en me donnant totalement tort sur l'ouverture qui était liminaire et en considérant que le lecteur et la lectrice n'arrivent jamais puisque c'est pas si égoïste, Daniel. C'est plutôt un idéal toujours inabouti, et précisément inabouti parce que vous demeurez éditeur et éditrice. Et c'est ça qui constitue aussi peut-être l'excitation de ce travail et de découverte qui est derrière.
Puisque tu t'adresses à peu près à moi, je vais répondre. J'ai pas dit que je ne m'intéressais pas au lecteur. Simplement, je ne veux pas être dans la position de ce fameux artisan dont se repaissent les légendes, qui fait des belles choses avec de beaux matériaux. Posture que je trouve un peu bourgeoise aussi aujourd'hui. Un peu comme si le poème était incapable de songer à lui-même. Le poème, c'est d'abord, au-delà de la posture du fabricant, du matérialiste qui fabrique la forme, un sujet de réflexion, un outil d'exploration de l'humain, de soi-même. C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins de têtes noires dans les assistants qui nous regardent et de plus en plus de cheveux blancs.
Merci pour les cheveux blancs.
Voilà. Je dis simplement que malgré que je sois un bon artisan, je ne dénigre pas la part intellectuelle qui doit demeurer malgré tout dans le poème. Je dis ça en remerciement au poète. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de ce côté-là.
Mais peut-être que justement, on pourrait te donner la parole, Élise, parce que tu as, je crois, les éditions les plus plastiques de ce panel que vous représentez. Et comment tu travailles cette forme, cette matière, et comment tu gardes précise, quelle est la place du texte dans l'objet aussi?
Oui, ça c'est la question, et en fait c'est ce qui distingue le livre d'artiste d'un livre artisanal. Et moi, je, c'est vrai que j'ai pas voulu aller vers le livre d'artiste. L'idée c'est de rester au service du texte. Et ça, le texte est toujours premier, texte ou œuvre plastique quand c'est du dessin. Et voilà. Et ça, c'est effectivement une position, et je te rejoins là-dessus, que je tiens à tenir. C'est-à-dire que même si l'objet se fait remarquer, il est là quand même au service du texte et il ne doit pas l'éclipser. Et parfois, il y a eu des idées où c'était trop, voilà. Et où moins c'est mieux, et donc il faut enlever, parce que ça devient de la coquetterie, soit parce que c'est du superflu. Voilà, si ça ne vient pas servir directement le texte, ce n'est pas la peine. Et c'est pour ça que j'essaie de créer des dispositifs de lecture qui soient vraiment en adéquation avec ma lecture du texte. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est mon interprétation du texte que j'offre ici. Et donc, effectivement, c'est des formes qui se singularisent. Voilà. Le même texte chez un autre éditeur ne serait pas édité de la même manière. Et c'est arrivé. J'ai parfois publié des livres qui étaient aussi publiés ailleurs. Je les fais différemment et ça ne donne vraiment pas le même livre. Voilà. Et ça ne donne pas la même expérience de lecture. Et effectivement, au Vanternier, parfois, on frôle le livre-objet. Voilà. Sur celui qui est déployé là, on le voit. Ça, c'est un livre oulipien. Donc, quelque part, ça vient. Enfin, c'est pas de la para. Ça vient vraiment informer la lecture. Sans cette forme-là, on ne peut pas avoir l'expérience de lecture que l'auteur souhaitait avoir. Voilà.
Peut-être que, Eric, tu peux rebondir justement sur. Donc, tu nous as parlé de la dimension audio de ton travail, mais la question de l'accessibilité du livre, de la transposition du matériau en objet et de la forme même de tes livres, qui en fait. Un comporte parfois de l'image de cinéma et d'autres types de formes, et qui restent des livres, en fait, en apparence, dans un rayonnage de bibliothèque, on ne verrait pas que c'est un livre différent. Et pourtant, à l'intérieur, vous travaillez d'une autre manière. Comment est-ce que tout ce travail se passe, et comment est-ce que justement la forme est un enjeu de médiatisation de la lecture?
Moi, il me semble que en essayant de regarder les 150 livres qui sont les 150 titres, pas 150 livres qui sont au catalogue, on a quand même aussi le fait chez Cap Pleine Page, en tout cas, que le livre, il est à la fois au centre, mais il n'est pas ni un point de départ ni un point d'arrivée. Vous venez d'en parler. Il y a des livres qui deviennent des films, il y a des expositions qui deviennent des livres. Donc je pense que, en tout cas, chez Pleine Page, le livre, il est plutôt comme un nœud, alors on va employer les gros mots, comme un rhizome où ça part et ça arrive, mais c'est pas forcément un point d'arrivée, c'est pas forcément un point de départ. Il est là, mais pour aller ailleurs, pour aller vers la performance, pour aller vers une exposition, pour venir d'une performance, ou alors pour devenir un film, puisqu'on a des livres qui deviennent des films. Et je pense que c'est aussi une façon de pas rester centré sur le livre et de montrer aussi que la lecture, elle va, en tout cas pour le poème, parce que là nous sommes tous, toutes et tous éditeurs de poésie, le poème il passe par le livre, mais il passe aussi ailleurs. Heureusement, il est ailleurs, en particulier par la voix, le corps, les arts plastiques. On vient d'employer des mots d'art plastique. Voilà, donc je suis là. Après, c'est vrai que pour aller plus loin, on a parlé d'artisanat et de matérialisme. Un éditeur est aussi un commerçant, hein, puisque nous sommes ici au marché. Donc, nous sommes au marché, donc on peut aussi parler de faire des travaux pratiques d'économie. Hein, le marché, c'est le meilleur endroit pour le faire. En plus, je vois qu'en face de moi, là, il y a un hôtel des impôts. Et que les gens qui travaillent là, à l'hôtel des impôts du 6e, vous diront qu'ici, dans le 6e, il y a les plus hauts revenus de France. Dans le 6e, on gagne plus que dans le 16e et à Neuilly. Alors nous, le fait qu'on fasse des livres qui sont entre 5 et 20 euros, on ne peut pas dire que les livres que nous éditons sont des produits de luxe, mais vu les difficultés de grandeur et des cadences d'un petit commerce de poésie, comme disait l'autre, je me dis peut-être que éditer de la poésie, c'est un sport de luxe et en même temps un sport de combat. Voilà.
Dominique, Ariane, vous voulez rebondir sur ce qu'on vient de se dire ou sur ce qu'a dit Eric? Ariane, peut-être sur l'accessibilité du livre, enfin sur tout ce que tu voudras, mais peut-être sur la question de l'accessibilité du livre aussi, de l'objet.
Oui, sur la question de l'accessibilité du livre, bah, je te rejoins beaucoup, Eric, en fait, dans ce que tu disais sur la question d'un, finalement, d'un livre qui sert de support et parfois de support à autre chose. Nous, on travaille beaucoup ça aux éditions, déjà parce qu'on... Un des points forts de la maison, c'est la question de l'oralité. On a beaucoup de poètes et poétesses qui vont performer, qui vont donner des lectures publiques. Et on a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui viennent du monde entier. Donc on a beaucoup d'éditions bilingues. On a fait aussi des livres en LSF, en langue des signes, où on a trouvé une manière d'insérer la langue des signes via des QR codes qui renvoient vers les vidéos signées. Et on a aussi sur les questions, là on va être un peu plus commerçant, sur les questions d'accessibilité en termes d'objets livres, on a lancé une collection poche il y a quelques années. Ça fait 15 ans que la maison existe, il n'y avait pas encore de collection poche. On l'a lancé parce qu'on a un titre qui a été mis au programme du bac.
La collection Sacoche.
Et cette collection, elle permet plusieurs choses. Elle permet d'offrir des livres de poésie à moins de 10 euros. Et elle permet du coup de toucher un lectorat parfois plus précaire, mais parfois aussi plus jeune, d'entrer dans les salles de classe, de faire comprendre que la poésie, finalement la poésie au format poche, c'est pas que des collections que je ne citerai pas ici, parce que ce serait mal vu, mais qu'en tout cas c'est aussi la poésie contemporaine, c'est aussi la poésie du monde entier, c'est la poésie vivante. On va faire aussi nos premiers poches en bilingue l'an prochain, on ne l'a pas encore tenté mais on va le faire. Voilà, donc nous c'est très modeste notre manière d'appréhender l'objet livre parce que ça reste des objets assez classiques, on n'est pas dans des expérimentations artisanales, etc. C'est pas vraiment notre cœur de métier, mais en tout cas on a une attention vive portée au fait que la poésie puisse être rendue accessible au plus grand nombre.
Dominique, vous voulez rebondir?
Alors, je pense qu'il y a... Vous m'entendez là?
Oui.
Je pense qu'il y a ce qu'il y a d'intéressant, et d'ailleurs c'est parfaitement présent ici à Saint-Sulpice, c'est la variété des démarches, pas forcément des résultats parce qu'on se rejoint, la preuve, mais et c'est ça, c'est vraiment cette variété de la composition des éditeurs de poésie ou des poètes, etc., qui fait la richesse de tout ça. Et nous, notre idée ou notre essai ou notre ambition, etc., c'est il y a la notion de famille, comme tu le disais, qui est présente, et en avançant, enfin dans le métier, l'idée de publier beaucoup de gens, la variété, la grande variété, au maximum de ce qu'on va pouvoir, c'est-à-dire que bien sûr, on va pas tout faire. Hein. Et donc, les résultats, si on parle chiffres, j'en aurai pas beaucoup, c'est 450 auteurs aujourd'hui au bout de 18 ans d'existence, et 1200 titres. Ce qui est gigantesque, en fait, vu la petite équipe qu'on est, ça fait 60 livres par an en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas. Ce qui est aussi gigantesque, en fait. Hein. Et donc, voilà, on va arrêter les chiffres. Et l'idée, c'est que l'éditeur permet à un auteur d'exister à travers la création de ce livre. Et pour nous, au moins, dans une intention, il faut passer à travers les contraintes du prix du papier et autres, Covid, etc., c'est de créer, d'offrir et de créer un objet papier, enfin un objet, voilà, de qualité. Donc ça passe par un designer, ça passe par etc., tout ce qu'on peut faire, voire d'autres, parce que maintenant l'équipe s'est agrandie. Et donc l'idée, c'était aussi d'agrandir la famille, que tout ça ne se perde pas parce que y a une contrainte. On a beau être de bonne volonté et être d'essayer de faire au mieux, il y a un jour où on va tomber. Et que le jour où on tombe, ce qu'on a fait, les gens qu'on a publiés, donc, cela nous survivent. Et donc l'idée est à la base d'une démarche d'aller trouver d'autres gens qui sont un peu proches de nous, ou pas complètement, mais enfin en tout cas qui sont prêts à travailler avec nous, dans la même direction. Et donc on a rassemblé, enfin, des gens nous ont rejoints. Thierry Renard, qui est donc qui travaille, qui sait faire quelque chose que nous, on savait pas faire, on sait toujours pas faire plus que ça, on apprend, qui est un professionnel depuis 40 ans de l'événement en poésie. Organisation d'événements pour le printemps de poésie, etc., etc. Et pas seulement qu'à Lyon ou dans la région, mais etc. en France. Bon, voilà. Ça, son équipe sait très bien faire. Donc on travaille main dans la main à ce niveau-là. Et Thierry Renard a laissé tomber son édition et est rentré comme éditeur à la Réunion Libre. Mais il est... C'est lui qui décide, il est autonome, pas financièrement puisqu'il y a un pack qui est général, etc. Bon, je vais le faire court, peut-être un peu plus court, excusez-moi. Les éditions Henri nous ont demandé 2 ans de suite avec obstination à pouvoir rentrer, exactement avec la même idée, ce qu'on a fait pendant 40 ans, ça va disparaître, on voudrait que ça puisse se poursuivre. Donc ils sont rentrés. Ce qui explique... les chiffres que je vous disais sur le nombre d'auteurs, et voilà, d'un seul coup, évidemment, ça monte tout, hein, au niveau des chiffres. Et donc, je pars sur mon idée qui est peut-être autonome par rapport à la question. Voilà, c'était ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et donc, l'idée, c'est de continuer autant qu'on pourra dans cette direction, pour créer quelque chose de suffisamment important pour que ça ait moins de chances de se casser la figure, que ça survive, voire que ça soit reconnu. On est une entreprise dès le départ, donc dans le monde économique. Et l'idée, c'était de passer par l'imprimerie, hein, de se démarquer de ce qui avait été fait à un moment donné, qui était beaucoup d'éditeurs qui faisaient des choses formidables, des objets formidables, hein, à travers l'imprimerie ou l'édition dont tu parlais. Voilà. Et donc, la place pour tout le monde. Hein. Et donc, à ce moment-là, passant par là, de baisser le prix tant qu'on peut, mais publier un livre, c'est se dire qu'il faut faire rentrer d'argent suffisamment pour pouvoir publier le suivant. Voilà. Je m'arrêtais là.
Non, mais c'est très juste, et je sens le désir de parler d'économie assez collective, donc on y viendra. Mais Daniel, vas-y, pardon.
Je ne veux pas parler d'économie. Je n'ai absolument pas parlé d'économie. D'ailleurs, je m'abstiens de parler d'économie.
Mais non, on peut en parler quand même.
C'est quelque chose qui me dépasse.
Oui, mais Ariane aussi.
Dans la mesure où on n'a pas parlé du poème. Là, vous parlez de livres. Je ne m'inscris pas en faux avec mes camarades. Vous parlez du livre, de fabrication de livres, de forme du livre. Mais que je sache, on est dans un marché de la poésie.
Mais bien sûr.
On doit parler du poème. Le poème n'est pas que le livre.
Après, on est dans des états généraux de la poésie sur éditer le poème.
Oui,
donc,
le poème. Éditer le poème.
Oui.
Voilà, mais c'est l'économie du poème qui sont évoquées, pas celle du livre.
Mais je vais quand même prendre à contre-courant la remarque de Dominique et questionner Ariane sur sa propre maison d'édition autonome pour montrer, pour peut-être qu'on essaie de voir aussi où des énergies, donc il y a des énergies de synergies qui rassemblent et des énergies qui sont vouloir éclater, disséminer, multiplier. Donc ça, c'est une première chose. Et peut-être qu'on pourrait, donc ça, ce serait sur le plan macro-structurel, et sur le plan plus micro-structurel, comment est-ce que vous pensez aussi vos collections? Parce que si on va sur chacun de vos stands, il y a des choses disparates, complètement disparates, et c'est d'ailleurs très heureux. Mais peut-être que vous pourrez aussi nous indiquer ensuite comment vous pensez une ligne éditoriale qui se déploie dans des objets différents, dans des poèmes différents, dans des formes différentes aussi. Mais d'abord, peut-être Ariane, justement, sur ce geste-là et les autres aussi, évidemment.
Ouais, alors il y a plusieurs choses. Donc, je vais essayer de rassembler peut-être en une réponse la dimension éditoriale et la dimension économique. Comment dire ? Alors, donc, nous, les éditions Bruno Doucet, elles ont 15 ans. C'est une maison qui, aujourd'hui, a 250 titres au catalogue. On a une centaine d'auteurs et d'autrices. La ligne éditoriale, elle est à la fois vaste et très claire pour nous qui sommes à l'origine de ce qu'on publie et de ce qu'on propose. Elle se déploie à travers les collections, elle se déploie à travers les territoires, elle se déploie à travers les langues et elle se rassemble et se concentre à travers... peut-être l'énergie qu'on trouve dans les textes qu'on lit. C'est à la fois très flou et en même temps très sincère. C'est-à-dire que, avant toute chose, un recueil qu'on va choisir de publier, c'est un texte qui a fait vibrer quelque chose en nous et où on ressent l'envie de le partager. Je pense que c'est un peu ce que tu disais, Jamel, tout à l'heure, sur la question d'être l'éditeur du lecteur enfin, l'inverse, ce que tu avais dit. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de, on lit quelque chose, on l'aime et donc on a envie de le partager. Je pense que ça, c'est le sens profond de la ligne éditoriale qu'on déploie. Aux éditions Bruno Doucet, voilà, on a des textes plutôt tournés vers le lyrisme, plutôt tournés vers l'engagement, mais pas que. Il y a des voix politiques, il y a des voix intimistes. Et il y a voilà, des gens qui viennent d'un peu partout. Et au niveau économique, pour aborder des... Parce que tu disais, c'est les états généraux, il faut quand même qu'on parle un peu de, voilà, des conditions matérielles du poème, du lieu de création du poème. Nous, on est une petite structure, on est une petite maison d'édition, on est une petite barque qui essaie de se faufiler à travers les années et de se pérenniser. On est 4 salariés, il y a des personnes bénévoles qui nous aident, qui travaillent avec nous. Moi, je suis éditrice associée, on est plusieurs associés dans la maison. On est une entreprise, mais on est une entreprise fondée et structurée par des personnes qui pensent que la poésie a quelque chose en plus qui fait qu'on se lève le matin, qu'on vient au marché de la poésie et qu'on trouve un sens en fait à faire ça chaque jour de notre vie. Donc c'est un peu paradoxal peut-être dans un monde ultra-capitaliste et néolibéral.
C'est ça le poème.
Mais voilà, c'est peut-être ça le poème. C'est peut-être là l'endroit économique du poème en tout cas.
Je suis désolé, mais j'abonde dans ce sens-là. Et je veux dire, pour moi, faire 400 km pour faire découvrir à des Parisiens absolument surinformés quelques petits noms de poètes inconnus, même dans la Creuse, je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors, quand on me parle comme si on parlait à Gallimard, je trouve que c'est presque déplacé, cette économie du livre qu'on évoque. Je sais bien, c'est un phénomène de société, mais auquel j'essaye de ne pas obéir. Le poème, c'est ce qui me le fait me lever le matin, c'est ce qui a fait que j'ai appris les techniques d'impression, je fabrique mes livres, moi aussi. Je les imprime, je les façonne, je les distribue. Je les diffuse, je rencontre les auteurs, je corrige les manuscrits, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Le poème est le plus important. Je me place au centre du poème pour en parler. Je crois que le monde qui tourne autour n'a pas de sens si on compare le poème à un vulgaire produit qui ressemblerait à un autre, qui rentrerait dans une économie plus générale, qui serait celle qui va du camembert à l'artiste showman. Non. Le poème, c'est particulier, et tout le monde le sait, les gens qui viennent ici, qui m'achètent des livres bizarres, le plus souvent, ils mettent plusieurs jours à les comprendre, parce que ils savent même pas pourquoi ils les ont achetés. Je veux dire, on voit bien que c'est pas une histoire de goût, c'est pas qu'une histoire de littérature.
Non, mais tu as très justement dit, je distribue, je diffuse, et tu as là dit le cœur de l'économie du livre, d'une position de résistance ou pas de résistance, et d'un monde capitaliste auquel on n'adhérerait pas ou auquel on adhérerait, qui est précisément la force de frappe ou non du livre comme produit.
Des livres de poèmes ?
Bien sûr, mais oui. Tu sais bien que tous les autres livres qui peuvent se vendre ailleurs sont diffusés, distribués par des gens qui capitalisent sur cette marchandise-là. Et de fait, en font une marchandise. C'est pas moi qui le disant, en fait une marchandise. Et ta position justement à toi, et moi ce qui m'intéresse, c'est de parler de vos positions à vous, c'est de refuser cette ligne-là par tout ton travail artisanal, manuel, intellectuel, créatif, de diffusion et aussi de distribution, qui fait que ta maison n'est pas n'importe quelle maison, comme aucune de vos 5 maisons ne sont n'importe quelle des maisons qui existent. Et c'est là où je pense qu'il y a un enjeu et un intérêt à cet échange, notamment. Sinon, effectivement, on serait chez Madrigal et on se raconterait tous les mêmes histoires.
Oui, c'est parce qu'on n'est pas chez Madrigal, justement. Mais c'est bien. C'est bien que, ayant dit cela, on ait réussi à recentrer le discours. Donc tu es revenu dans le bercail, comme on dit. Vive la poésie, c'est tout ce que j'ai à dire. Et elle a toujours été comme ça. Vous le savez tous. Baudelaire a publié 250 livres de son vivant, quasiment. Je veux dire, honte à nous si nous arrivons à en publier 500 aujourd'hui. Par contre, la postérité est importante. Travailler pour l'humain, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si je gagne pas ma vie, après tout, je peux faire autre chose.
Oui, mais il faut quand même aussi avoir en tête que on a peut-être deux générations différentes sur scène, et peut-être qu'une génération n'a pas la possibilité de dire si je gagne pas ma vie en faisant ce travail-là, je peux la gagner autrement. Parce que les conditions matérielles d'existence ne sont pas tout à fait les mêmes en 2025, et encore moins en 2027, qu'elles ont pu l'être à une époque où il y avait une fluidité sur le marché du travail qui était plus simple, et une régulation justement libérale qui venait moins entraver malgré tout certaines choses. Mais ça, c'est générationnel, je pense.
Oui, c'est du rationnel d'aujourd'hui, oui. Auquel je crois pas beaucoup, mais bon...
C'est pour ça qu'on a tous le même âge.
Ouais,
Eric, tu veux peut-être rebondir sur ce que tu veux.
Voilà, bah, je vais rebondir avec un peu de retard avec la question sur le lecteur ou la lectrice. Je vais finir par répondre. La première chose, je crois que les auteurs aussi que l'on édite sont nos lecteurs ou nos lectrices. Et que j'ai remarqué, en tout cas, que voilà, aller vers pleine page ou lancer un manuscrit vers pleine page, c'est aussi parce qu'on a lu du pleine page qu'on veut aller chez pleine page. Ça, je l'ai remarqué. Ça, c'est donc pour le service après-vente. Il y a aussi, alors on parlait du poème, il y a aussi le fait que le poème est existant aussi au-delà ou à côté ou en parallèle ou à gauche, à droite, au-dessus ou en dessous du livre. On a par exemple des interventions en milieu scolaire où on voit que le jeune public aime bien lire et relire. C'est-à-dire que tu lances un poème et tu as 10 lycéens ou 10 collégiens qui veulent lire le même poème, chacun leur tour à voix haute. Donc ça veut dire aussi que c'est une façon aussi d'être lecteur, enfin c'est être lecteur, de lire 10 fois le même poème par 10 personnes différentes. Et ça c'est spontané, c'est pas nous qui le faisons. Et moi monsieur, je veux le faire. Donc il y a ça. Après, pour revenir à l'économie et pour parler des choses qui fâchent plus ou moins, alors moi, c'est vrai que le terme d'artisanat, ben, on va l'éviter. Donc moi, je me vois plutôt comme une sorte de Fab Lab ou de labo de recherche, parce que j'ai aussi des éditeurs, des gros, des grands éditeurs vénérables qui ont lu forcément des livres de pleine page, puisqu'ils m'envoient un courrier pour me demander l'autorisation de reproduire... des textes de chez nous. Donc je me dis que peut-être aussi cette non-économie ou cette économie à fond perdu, c'est une façon pour... Enfin, moi, je me le considère, en tout cas chez Pleine Page, chez nous, chez Pleine Page, c'est de se dire, ben, on fait un peu... je ne sais plus qui a parlé d'exploration tout à l'heure, j'ai entendu le mot exploration. Ben, je crois que c'est vous ou vous. Ben voilà, ben, c'est pas qu'on défriche, mais on va voir un peu ce qui se passe là où on ne regarde pas. Alors c'est Jean-Jacques Vuitton qui m'avait dit, lorsque je l'avais rencontré là, il y a très longtemps, et en parlant d'André Dimanche, il me dit, mais André Dimanche, il m'avait dit, c'est pas un éditeur, c'est Livingstone qui va chercher les sources du Nil. Donc c'est vrai que pour moi, être un éditeur de poésie ou un éditeur, on va pas parler de taille parce qu'on va pas faire des concours de taille et de longueur, mais être un éditeur indépendant, c'est justement aller voir, aller écouter ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'écoute pas toujours. Et puis après, c'est vrai que le lot de l'underground, c'est de finir parfois dans le mainstream, mais bon, ça, c'est pas. Mais voilà, voilà, en tout cas, comment je vois les choses, plutôt comme de la recherche ou de l'expérimentation, plutôt que de l'artisanat. Mais certains artisans pourront vous dire qu'ils sont des chercheurs ou des chercheuses aussi. Hein, voilà.
Oui, mais justement, Élise, peut-être que tu peux rebondir sur cette question-là, sur toute la dimension aussi de recherche. Dans le geste créatif et plastique et formel de l'écriture, à la fois par la dimension oulipienne qu'on voit sur cet objet-là, mais aussi parce que tu travailles avec des chercheurs et des chercheuses qui écrivent de la poésie, qui ont plusieurs casquettes, et que c'est aussi une dimension de la maison, je crois. Une des dimensions de la maison.
Ça peut être une des dimensions de la maison, mais auquel cas, effectivement, là, c'est pas en poésie. On publie, par exemple, les Cahiers Pérec, on publie... On a publié aussi une collection qui s'appelle Les gens connectés qui faisait une espèce de pont entre cette dimension artisanale, papier, etc. et tout ce qu'on subit en fait à l'ère du numérique comme transformation de nos rapports avec les autres. Et donc ça, là-dedans, il y a une dimension de recherche, effectivement, de se questionner. Voilà. Et là, la collection, elle sert de petit laboratoire pour comprendre des nouveaux comportements par le biais de fragments de texte, d'illustrations. Et voilà, ça fonctionne comme un tout. Et c'est un vrai projet qui a aussi une vocation non seulement de création, mais aussi qui après peut être un outil en fait à aller apporter. Donc oui, il arrive qu'on fasse ce genre de projet. Après, je pense qu'en fait, il y a plusieurs façons d'aborder la dimension matérielle, et je pense que le rapport au temps, il est aussi intéressant que le rapport à l'argent, parce que moi je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut du papier, etc. Voilà, pour faire du livre, il faut aussi de l'argent, il faut du temps. Voilà, l'argent notamment, pour pouvoir continuer à en faire. Voilà, l'argent pour pouvoir le diffuser, pour pouvoir, voilà, c'est juste, c'est presque comme une matière, voilà, dont on a besoin aussi pour pouvoir continuer à faire ce travail. S'il y a quelque chose d'un peu singulier quand on est artisan et donc on fabrique nous-mêmes nos livres, ça va être que ça occupe une grande partie du temps, justement. Il faut imaginer qu'on a à peu près la moitié de la semaine qui est consacrée uniquement à accomplir la succession de gestes qui font qu'on aura suffisamment d'exemplaires des livres ensuite à diffuser. Voilà, donc là, en fait, il y a une espèce de pression permanente sur le temps. Quand on choisit une démarche comme celle-là, c'est à la fois très porteur d'espoir parce que chaque exemplaire nous montre qu'en fait, oui, c'est possible, que ça peut tenir la route économiquement, qu'on peut en vivre, voilà, et c'est une surprise, un étonnement chaque jour. Mais il y a aussi une inquiétude, en fait, une inquiétude qui vient du fait qu'on a, même si on le fait par goût, par passion, par nécessité, on s'engage quand même et il y a une responsabilité vis-à-vis des poétesses et des poètes qui nous confient leurs textes. Voilà. Et donc il y a une sorte de pression, et en fait c'est jamais assez, en vrai. On n'en fait jamais assez pour le texte qu'on a choisi. On pourrait toujours faire plus sur différents aspects. Il y a 10 métiers en un, en fait, quand on est éditeur indépendant. Et donc, il y a une sorte d'inquiétude qui nous habite, qui vient de la responsabilité, du fait qu'on nous a confié plusieurs missions, voilà, et que, en fait, en tant qu'éditeur indépendant, c'est infaisable d'être à la fois... tout parfaitement, attaché de presse, relations libraires, voilà. En fait, c'est surtout, c'est pas, alors vous l'avez compris, du côté de la production, ça va. Voilà, c'est toute la suite qui est très compliquée à organiser. Et je pense quand même qu'on a cette responsabilité, non seulement que le texte trouve un public, son public, mais quand même aussi le plus large possible. C'est notre métier, justement, de faire le lien, de faire le pont. Voilà, moi j'ai remarqué quand j'ai commencé que l'artisanat, ça permettait justement d'être quelque chose qui attirait en fait les lectrices, les lecteurs vers des textes peut-être vers lesquels en fait ils ne seraient pas allés, mais que voilà, mon travail d'édition permettait de susciter la curiosité ou une espèce de singularité qui font que après, quand ils découvrent que c'est un exemplaire unique en plus. Il y a cette idée du lien privilégié avec, c'est leur exemplaire vraiment, il est numéroté, il est daté, voilà. Et ça, pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que je trouve pas, enfin, ce serait esthétisant si c'était juste une fin en soi, ça. L'idée, c'est justement de susciter des lectures, voilà. Et voilà, je pense que, pour ajouter quelque chose sur la dimension matérielle, alors bien sûr, tous les éditeurs peuvent avoir des problèmes techniques de fabrication avec les imprimeurs. Voilà, il peut y avoir des voilà. Alors nous, vraiment, on vit avec la possibilité toujours ouverte de l'accident. Et il y a un philosophe qui s'appelle Sénète qui a écrit « Ce que c'est la main ». Et dedans, il redéfinit la figure de l'artisan aujourd'hui, une définition très élargie, en fait. Voilà. Mais il explique que l'habileté de l'artisan, c'est moins dans la répétition parfaite du même geste chaque jour, etc., que dans la capacité à répondre aux imprévus et aux accidents. Voilà, on est tous artisans, du coup, à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, voilà. Après, très concrètement, on a des machines, on a des limites physiques aussi, ce qu'on fait nos livres avec notre force musculaire, avec notre concentration, avec voilà. Et donc, à un moment donné, c'est un peu comme les sportifs, faut qu'on fasse attention, quoi, parce que nous sommes la machine qui produisons les livres. Et puis, on a quand même des outils qui tombent en panne tout le temps. On est relié à des problématiques. Bah oui, forcément, l'encre, elle vient d'Asie. Et puis parfois, il y en a plus. Et puis voilà. Et en fait. ça, ça occupe énormément de temps, en fait, au quotidien. Tous ces problèmes d'outils, de matière, de, voilà. Donc on est quand même vraiment dans un aspect très concret et très pratique. Et finalement, la réflexion sur le poème, le moment où ça peut nous habiter, bah, c'est dans les moments où il n'y a pas d'accident à l'atelier, quoi.
Oui, en fait, il y a aussi une vraie présence du corps dans le travail matériel du livre. Et ça, c'est un lien charnel à la poésie, quand même, pour revenir à cette question-là. Dominique, peut-être, justement, vous pourriez nous dire, à propos de cette question de lignes éditoriales, justement, vous disiez que des gens pouvaient s'agréger, des petites maisons pouvaient vous rejoindre, des maisons amies, que la famille grandissait. Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois dans l'hospitalité et à la fois dans une ligne qui reste assez identifiable, justement, au fil du temps? Comment la famille reste identifiable et à la fois de plus en plus grande pour vous? Et comment votre travail...
Et vous pensez que la ligne de la rumeur est identifiable au fil du temps?
C'est ça la question.
Je vous pose la question. En fait, à vous entendre... voilà, je réaffirme ce que j'ai dit tout à l'heure, de la variété des solutions trouvées à un désir qui est commun, qui est le texte, enfin qui va se raccrocher au texte, on va employer ce terme-là, ou la publication du texte, de la variété des démarches, naît quand même une très grande richesse du résultat. Enfin voilà, moi c'est ça que je vois. Chacun définissant sa façon de faire, sa démarche et sa possibilité quand même économique. Je suis loin d'être une spécialiste de chiffres, loin de là. Il faut bien faire vivre ça dans une société donnée, qu'on ait envie d'y vivre ou pas, qu'elle nous plaise ou pas, qu'elle évolue dans le bon sens ou pas, ou qui nous... bref, voilà. Et donc ça, c'est l'idée, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, le résultat vaut ce qu'il vaut, d'arriver à créer effectivement un ensemble de textes à une famille qui est grande, on va reprendre ce terme, suffisamment grande et suffisamment plurielle, parce que on disait que pour que ça puisse se défendre économiquement, quand même. Voilà, je vais m'arrêter de parler d'économie, parce que c'est pas contradictoire pour moi. On sait bien que beaucoup, beaucoup de maisons, de petites maisons d'édition, qui ne sont pas forcément présentes là, ont fait des choses magnifiques et ont disparu. Plutôt, les auteurs qu'elles avaient publiés ont disparu. Il y a quand même quelque chose de dommageable. Enfin, il y a une richesse qui se perd. Donc, c'est... voilà. Notre idée, notre démarche, elle est là. On a réussi, on n'a pas réussi. On essaye d'avancer et de se battre pour ça. Et c'est vrai qu'il faut quand même... avoir dans les tripes le ressort non rationalisé qui fait qu'on y va chaque matin, qu'on vient au salon de la poésie, enfin à Saint-Sulpice, qu'on fait quand même ça alors qu'on est dégoulinant, on perd 3 litres par jour, et qu'on revient le lendemain matin. Vous voyez, et que on va rentrer chez nous et on va continuer. Vous voyez, bon, il y a un moteur qui, je suis certaine qu'il y a un moteur qui est le même et il est là. Et dans l'origine des textes aussi. D'accord ? De ceux qu'on publie. De cette rencontre, de cette richesse. Bref. Ça, voilà. Pour moi, c'est clair qu'il n'y a pas de contradiction vitale. Sauf en aimanté. Voilà. Et que votre démarche, je ne sais plus votre prénom.
Daniel.
Elle est marquée par ce que vous êtes. Et que qui c'est une richesse là. Voilà. Voilà, moi j'en suis, enfin voilà, moi il y a vraiment pour ça, voilà. Donc respect à tout le monde, si on peut dire ça. Voilà, respect. Et de la même manière que j'exige, que je dis aux gens quand je fais quelque chose, respect. Voilà. Et que économiquement, enfin que dans la société, on essaye de faire en sorte que on dise à la poésie respect. Parce que c'est quand même, vous savez, ils nous disent c'est un marché de niche, ben, c'est une réalité, mais peut-être qu'après tout. On pourrait rester en niche, se faire respecter plus. Parce que quand même, hein, dans le monde économique, c'est quand même pas si simple. Dans l'époque actuelle, il fut une époque où c'était quand même plus respectueux, plus... je dirais pas amoureux, mais enfin bon, voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu la suite. Corollaire et donc l'idée, alors l'idée, je vais juste continuer à dire, il y a des éditeurs qui effectivement demandent à nous rejoindre, et il y en a d'autres qui toquent à la porte.
C'est possible, c'est pas possible.
C'est d'abord des. Est-ce que c'est possible déjà au niveau de. Est-ce qu'on peut travailler ensemble, hein? Parce que l'idée de la rentrée des éditions Henri ou de la rentrée des d'un Thierry Renard, c'est qu'il rentre à titre d'éditeur. Directeur de collection, éditeur à l'intérieur de la rumeur. C'est eux qui restent décideurs de leurs propres livres et de leurs propres auteurs. Évidemment, il faut que ce soit compatible, on ne va pas. Voilà, hein, il y a quand même des choses d'éthique qui sont communes. Mais voilà, c'est Jean Voël qui décide ses auteurs et ses bouquins. On regarde si c'est possible ou pas dans l'année, etc. On a fait rentrer aussi, parce qu'il y a l'idée de la jeunesse, effectivement, hein, l'idée de faire rentrer non seulement des auteurs jeunes, et ça, pour ça, on avait fait une revue de poésie consacrée aux écritures, comment on appelle ça, les primo-publiants. Voilà. Donc, ça, c'est pour les auteurs. Et puis, pour les gens qui nous rejoignent dans l'équipe éditoriale, il y a des gens comme Guillaume Arthus-Bouvet, qui est un jeune prof de philo à Lyon, et qui rentre pour diriger la collection Raison poétique, philosophie de la poésie. Il est aussi décideur de qui il fait rentrer et de quel bouquin. On a Guillaume Métayer, qui est un spécialiste de hongrois, et à qui on a demandé de publier de la poésie d'Europe centrale, en bilingue. Donc, il y a du hongrois, il y a du tchèque, il y a du polonais, il y a des anthologies, voilà, etc. Et c'est lui qui décide, encore une fois. Voilà. Donc c'est la structure qui permet de porter ça. Voilà. Et ça a l'air de fonctionner, puisqu'on est encore vivant. Voilà. Et bien c'est. Bon, il y a des fois on se demande, hein, mais. Il y a quelque chose là qui est fondamental de comment dire, de cette écriture de création, de ces créations-là. De notre vitalité à nous qui en sommes conscients, ou à certains auteurs, enfin des auteurs, etc., ou ceux qui sont moins conscients, c'est-à-dire on cherche à élargir le lectorat, évidemment, les enfants, mais pas que, enfin voilà. Hein. Et il y a quelque chose qui tient à de quelle société on veut. Enfin, voilà, parce qu'on est, aussi là. Il y a une bataille quand même en ce moment. Il y en a toujours une, mais il y en a une pas mal en ce moment quand même, hein, qui est en ce moment et qui nous attend. Rassemblés.
Peut-être qu'on peut justement parler des différentes collections de vos maisons, parce qu'elles offrent un pan d'élargissement et d'ouverture. Ariane, tu en as un petit peu parlé à partir du travail que vous faites avec Bruno, mais vous avez quand même tous et toutes une représentativité assez large. Là, on les voit, Élise, tes différents livres, il n'y en a aucun qui est pareil. Alors certes, il y a le travail de la matière et le travail du corps dans la matière, etc. Mais il y a quand même aussi différentes formes, différentes collections. Et Daniel, il y a une série de formats aussi. Tout à l'heure, tu as dit des livres qui pourraient paraître bizarres parce que c'est des objets, c'est des poèmes différents, c'est des choses différentes, etc. etc. Justement, comment est-ce que sont répartis ces œuvres et ces différents poèmes dans la maison? Et est-ce qu'il y a une pluralité de collections? Comment se joue l'accueil justement des différents poèmes dans la maison chez Tarabuste?
Ça répond au même client, au même lecteur que je suis. Des livres pour enfants, enfin dit pour enfants, moi je pense que c'est plutôt pour des adultes qui ont gardé une part d'enfance. Des livres de poésie. Au sens le moins restreint. Il y a aussi des textes de. C'est de la prose, bien sûr, mais des récits. Bref, tout un tas de choses qui ont toujours et de tout temps ressemblé à tout un tas de choses. Autrement dit, des collections qui ressemblent à des collections, sauf que le titre a changé. J'ai mis Tarabuste au lieu de mettre Gallimard. En bas, c'est des codex, c'est-à-dire du texte sur des pages qui se tournent, qui font plaisir ou pas. Ma foi, je pense que tout cela est entouré d'une fine pellicule que j'appellerais la responsabilité, parce que il y a eu un mot très important, c'est de jeunes auteurs nous confient des manuscrits qui sont le plus souvent des sortes de formes comme ça, ectoplasmiques, mais qui contiennent du sang, de la sueur, un peu d'âme. Et les gens comptent beaucoup sur nous pour les porter. C'est pourquoi je m'interdis d'être un dilettante. Je porte le poème avec responsabilité. Et c'est pour ça que je continue à le faire depuis 45 ans. Il ne me viendrait pas à l'idée, par exemple, demain matin, de dire je vais aller me mettre les doigts en éventail au soleil, alors qu'il y a plein de choses encore à faire. Je partirai pas tant que j'aurai pas fini le travail commencé. Voilà. La notion de responsabilité est loin du dilettantisme qui, me semble-t-il, est quand même un peu envahissant ces derniers temps. Parce que quand on veut tout, le portable, la télé, les plaisirs, les croisières et je ne sais quoi, et en même temps se dire grand éditeur, alors qu'on n'en est qu'un petit, il me semble qu'il y a quelque chose d'antinomique. Si c'est ça l'économie, je disais tout à l'heure, je le répète, je m'inscris en faux. C'est tout ce que j'ai à dire, en fait. J'ai pas grand-chose à dire de ce truc.
C'est pas mal, hein.
Mes livres sont sur le stand 507. Vous pouvez venir les voir, les compulser. C'est gratuit. Il y en a pour tous les âges, de 5 euros à 20 euros. Et ils sont traités avec responsabilité. Je vous remercie.
Ariane, tu veux rebondir ? Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi dans ta position, Ariane, qui est quand même un peu plus spécifique, c'est que tu as aussi créé une maison à côté, qui n'est pas concurrente, qui n'est pas, qui est juste une autre maison, comme une forme d'altérité complémentaire, supplémentaire. Et je pense que ton point de vue sur ce sujet-là, puisque tu as plusieurs jambes dans plusieurs endroits différents, peut aussi être éclairant à l'égard de cette multiplication des forces.
Oui, alors effectivement, moi, il y a 5 ans, j'ai cofondé avec Flora Monin une maison d'édition associative qui s'appelle 10 pages au carré et qui publie des poètes et poétesses de moins de 35 ans qu'on accompagne sur un premier texte. L'idée, c'était de se placer à peu près au niveau de ce que propose le prix de la vocation, mais en ouvrant un peu plus largement. Le prix de la vocation, c'est un prix qui est ouvert au moins de 30 ans et donc il y a un manuscrit par an qui après est publié chez Chêne. Et on se disait que c'était vraiment super que ce genre de choses existe. C'est pareil avec la Crypte qui a ce genre de prix également. Mais on voulait élargir de manière à ce qu'il y ait plus de jeunes poètes et poétesses qui aient accès à cette première publication et qu'on puisse servir de tremplin. Donc l'idée, c'était vraiment d'ajouter un maillon à la chaîne des éditeurs et éditrices qui existaient pour proposer à ces jeunes voix d'avoir une sorte de carte de visite et après d'aller montrer ce qu'ils sont capables de faire, de montrer un petit morceau de leur univers à des maisons d'édition plus importantes qui sauraient les accueillir, les accompagner, etc. Donc voilà, on a publié 20 titres. C'est un projet qui réussit à notre sens à fonctionner dans le sens où le tremplin aujourd'hui est bien en place. Il y a plusieurs poètes passés par la maison qui sont désormais publiés ailleurs et qui vivent leur vie éditoriale dans d'autres structures. Peut-être que ce qui m'intéressait dans cette démarche, c'était vraiment l'idée d'ajouter une collection à ce qui existe au sein des éditions Bruno Doucet, mais avec une structure complètement indépendante, non affiliée, qui permettait d'être effectivement non pas en concurrence, mais vraiment de penser une part d'écosystème en plus. Aux éditions Bruno Doucet, on a une collection dédiée aux jeunes poètes qui s'appelle Jeunes Plumes, où on a des premiers textes. Mais cette collection, elle accueille 1 à 2 manuscrits par an. C'est peu, c'est le maximum qu'on puisse faire étant donné notre catalogue, étant donné qu'on a aussi une part non négligeable d'auteurs et d'autrices qu'on suit, dont on publie les 2e, 3e, 4e, etc. recueils. Et on y tient à cette politique-là. Voilà, peut-être dire que pour le coup, avec 10 pages au carré, c'est un travail qui est 100% bénévole. Qu'on fait vraiment sur notre temps annexe. Flora, elle est graphiste, elle fait un tas de choses aussi. Et c'est peut-être notre part d'engagement la plus forte en termes éditorial, elle se situe dans cette maison.
Eric, tu veux peut-être rebondir. Et j'aimerais que tu nous dises un mot aussi si tu veux bien, sur le travail. Tu nous as tout à l'heure parlé de l'audio, je reviens à chaque fois à ça. Vous travaillez beaucoup avec Claudie en dehors de la maison aussi, sur des projets de poésie qui ont trait au son, à l'audio et qui échappent le livre. Tout à l'heure, tu disais que le livre était un des différents maillons. Mais il y a tout un travail aussi d'édition, qui est un travail de direction artistique quasiment, qui est votre cœur de métier en plus, à côté, au travers, sous avec, comme tu le voudras, mais qui a une vraie force pour vous.
Oui, alors effectivement, je vais répondre à cette question, en même temps rebondir sur ce qui a été dit précédemment. D'une part, tout ce qui est expérimental et artisanal, on a insisté sur le fait d'éditer le poème, mais il n'y a qu'en éditant du poème qu'on peut se permettre de faire de l'expérimentation ou de l'artisanat ou de la petite série, parce que le poème permet cela. Je pense pas que faire de l'artisanat pour publier un essai ou un roman de 800 pages, peut-être que certains le font, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant au sens artisanal ou expérimental, etc., etc. D'autre part, oui, alors dans ce côté petit commerce, artisanat, il faut inventer aussi, alors on a parlé d'écosystème, il faut inventer aussi une forme de diffusion ou d'autres formes de diffusion. En tout cas, nous, effectivement, avec Claudie, on s'est inscrit dans du circuit court, on va dire, dans de la poésie de proximité. Et pour nous, diffuser le poème, c'est créer des événements, créer une manifestation littéraire qui s'appelle les auditives et qui nous permet d'aller le plus directement possible au contact des éventuels lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices, avec soit des actions au milieu scolaire, soit entre guillemets des estrades ou des podiums ou des actions en médiathèque. Oui, donc la diffusion, elle est aussi inventée comme ça. À échelle humaine, on va dire, parce que de toute façon, on est dans une guerre asymétrique, hein, contre les grands, les gros, les puissants et les autres. Alors, vous avez parlé de postérité, mais quand on relit Walter Benjamin, on voit bien que l'histoire est toujours écrite par les gagnants. Hein, donc, Dieu reconnaîtra les siens, mais ça, c'est comme ça. Mais ça fait rien, on le fait. Et donc, pour rejoindre cet écosystème, moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est la bibliodiversité, parce que on voit bien aussi que quand on fait de la monoculture, on voit où ça mène, hein, et qu'en même temps, la monoculture, c'est la plus fragile, hein, parce que qui dit monoculture dit moins de résilience, le moindre microbe qui passe, il rase la monoculture, alors que s'il y a de la bibliodiversité, eh bien, on a plus de chances de passer au travers ou de trouver... Alors, pour répondre à votre question précédente, Rodolphe, nos collections aussi essayent d'être bibliodiverses. Alors, on a une collection plutôt artisanale, un Fab Lab, où là, on s'est équipé parce qu'on s'est dit, oui, ça va être de plus en plus compliqué. Il y a aussi, donc on a lancé là depuis le début de l'année une collection faite entièrement à la main, mais en même temps une des premières collections qu'on avait montées, c'était Les Oublis. On avait acheté un copieur d'occasion, on s'était dit on va essayer de le faire tout seul à la main comme ça, et puis d'autres ouvrages qui sont un peu plus classiques. Mais c'est vrai que quand on va encore parler d'économie, mais quand on veut éditer et qu'on a des problèmes d'argent, on se dit que peut-être c'est moins cher ailleurs, alors on va passer les frontières, une frontière, deux frontières, trois frontières, alors ça fait l'Italie, l'Espagne et d'autres pays. Alors je vais pas citer des pays parce qu'on va croire que... Mais enfin, il y a aussi des questions à se poser. Est-ce que c'est choisir un imprimeur à l'autre bout du monde, c'est quand même une question de morale en ce qui me concerne en tout cas. Surtout si... jusqu'encore à présent, on a quelques subventions. Est-ce que c'est moral d'aller faire travail? Nous, on voit par exemple qu'à Marseille, on est près de Marseille, on a vu un à un les imprimeurs fermés, quoi. Je veux dire, ça aussi. Alors, c'est parce que, effectivement, je ne suis pas une jeune génération, donc depuis 30 ans. Mais enfin, ça, c'est bizarre de voir que dans une ville comme Marseille, il ne reste plus d'imprimeurs. Il n'y a plus de façonniers en région. Il faut aller façonner dans une autre région. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on se dit, on va le faire dans l'atelier ou dans la cave, le grenier ou la cuisine, quoi, parce que Mais c'est comme quoi tout est économique. Et, enfin, c'est l'économie politique de vraiment, je le dis sans ironie, quoi, de se poser la question du papier ou d'où vient l'encre. Vous avez dit d'où vient l'encre. Ben oui. Alors est-ce qu'il va falloir cultiver des plantes dans son jardin pour voilà. Mais bon, pour la diffusion, en tout cas, nous, on a choisi de monter un festival qui s'appelle Les Auditives. À l'origine, on l'avait fait, alors Claudie avait dit Les Auditives, parce que, avec EAU, parce que ce sont les fontaines. Alors, la mythologie grecque veut que la poésie part d'une source, avec le cheval qui creuse et qui fait sortir, jaillir la poésie. Donc, on avait fait passer comme ça les poètes de fontaine en fontaine, parce qu'aussi... Là aussi, dans la culture locale, la fontaine, elle est juste devenue une carte postale avec un trophée pour les touristes, alors qu'avant, la fontaine était un lieu de sociabilité. Et c'est vrai que on va faire des lectures près des fontaines, c'est aussi de remettre la fontaine au centre du village, alors qu'elle est toujours, mais qu'on ne l'aperçoit pas toujours. Mais celle-là est arrêtée, d'ailleurs.
Merci beaucoup. Peut-être le mot de la fin, Élise. Bibliodiversité. Qu'est-ce que ça t'inspire par rapport au Vingt-Herniers, par rapport au fait d'éditer comme ça avec le corps et le texte? Le texte et le corps, c'est politique aussi, c'est le corps au combat.
Oui, parfaitement. Il y a effectivement, c'est un type de présence effectivement qui est particulier puisque ça engage tout le corps. Et puis parce que quelque part, la trace du geste reste après. Une fois qu'on a l'exemplaire entre les mains, voilà, ça se voit que c'est fait main. Et donc, c'est très incarné, en fait, comme démarche. Et moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est quelque chose qui fait du lien, voilà, tout simplement, entre les gens. Il ne faut pas forcément chercher des idées compliquées, mais c'est simplement un être humain a été là et a fait ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je voulais dire, ça m'a fait penser à quelque chose que tu disais. J'ai entendu dire qu'il y avait une région, peut-être l'un d'entre vous, c'est où, ils ont acheté, les éditeurs ou la région a acheté une forêt pour pouvoir faire le papier. Vous savez où? Non? Mais donc, en fait, parce que pourquoi pas, en fait, commencer à faire pousser des choses. En fait, non, mais ça semble complètement fou, mais puisqu'on est encore là et que c'était pas gagné, voilà, je pense qu'on peut aussi envisager des projets comme ça et que oui, il faut être un peu fou, les encres végétales, ça se développe. Et donc, oui, à un moment donné, on arrivera peut-être à faire mieux, c'est possible.
Surtout que le papier recyclé est encore, il paraît, d'abord il est plus cher, le papier recyclé, et puis en plus, il est peut-être moins, comment on dit, moins...
Est-ce que ça consomme vertueux, pas beaucoup d'énergie, le recyclé, enfin, voilà.
Bon. Bah, en tout cas, on va se cotiser pour acheter une forêt et on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les cinq.
Merci.
Et je rends la parole à Vincent.
Merci.